Ça va?
Excusez-moi. Tu veux que j'enlève ce micro-là, Danny? Prions. Accompagne-nous ce matin, Seigneur, pour ce sujet qui est l'humilité. Aide-nous à être humbles, Seigneur. On a besoin de toi. Par nous-mêmes, on n'est pas capable, Seigneur. On n'est pas capable d'être humble. Parce que par nature, on est orgueilleux. Alors, sois avec nous, Seigneur, et que cette parole puisse vraiment pénétrer dans nos cœurs et qu'elle puisse transformer nos vies. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. En mars dernier, ma femme et moi, on a assisté à une conférence de couple qui était à Scroon Lake, New York, Word of Life. Laval puis Manon étaient avec nous. On a eu un bon temps cette fin de semaine-là. Puis, le sujet de cette conférence de couple, puis en passant, c'était en français. Puis, à toutes les années, je vais faire une petite plug, là, mais à toutes les années, là, je vous encourage à y aller au printemps, là, une conférence de couple en français, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis, le sujet de cette conférence qu'il y avait à ce moment-là, c'était « Aimer et respecter ». C'était le sujet de la conférence. J'ai appris au tout début que dans notre couple, on a un gros problème. Puis le gros problème qu'on a, c'est qu'on est pécheur. On est pécheur. Je pense que je ne surprends pas personne aujourd'hui. Puis le conférencier nous expliquait que pour le mieux de notre mariage, il y a deux choses qu'il fallait savoir. J'ai marié un pécheur, puis que je suis le pire des pécheurs. Moi. Et ça nous apporte à notre texte qui est dans 1 Timothée 1,15. Je l'ai mis à l'écran. On va voir beaucoup de textes ce matin. Ils sont tous à l'écran. La plupart sont tous à l'écran. Il y a peut-être juste quelques-uns qu'on va regarder tantôt, là, mais la plupart sont à l'écran. Alors, notre texte de ce matin, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est Paul qui écrit à Timothée. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. C'est Paul qui parle. Si vous avez la traduction français courant, c'est inscrit « dont je suis le pire des pécheurs ». Si votre Bible est en anglais, « whom I am chief », dont je suis le chef des pécheurs. Puis lorsque Paul dit cela, qu'il est le premier des pécheurs, est-ce que c'est une fausse humilité? Je ne penserais pas. Je crois pas que c'est une fausse humilité. Puis on va regarder pourquoi. Regardez ce qu'il lui-même dit, qu'il est auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Ça, c'est Paul qui dit ça de lui-même. Tournez dans Actes. Dans Actes des apôtres, au chapitre 8. Je ne l'ai pas à l'écran pour les Actes, là, mais ça va être tout près là. On va faire quelques versets dans Actes. Puis on va voir comment était Paul. Ou si vous préférez Saul, parce que c'est le nom qu'il avait. Dans Actes 8. Au verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Verset 3. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Chapitre 9, verset 1. Cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a eu une vision, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, puis ça, Paul, c'est après sa conversion, là, ici, c'est après, là, quand que Dieu s'est révélé à lui, là, mais là, c'est sa réputation qu'on va voir. Regardez ce qu'Ananias dit, verset, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Verset 19b. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêchait dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? » Verset 26. Il se rendit à Jérusalem. Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Acte 22, chapitre 22. Là, c'est Paul qui parle. Il donne un peu son témoignage. Acte 22, verset 3. Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Verset 5. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Chapitre 26, c'est notre dernière référence. Chapitre 26, verset 9. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Aïe aïe! Ils persécutaient les enfants de Dieu. Puis j'ai regardé dans le dictionnaire persécuté, qui poursuit tourmente avec injustice et violence. Il faisait blasphémer les chrétiens, lui-même blasphémateur. Il approuvait le fait que les chrétiens étaient tués. Il était complice de ça, puis il les emmenait en prison. Il était un homme très méchant. Il y avait une haine pour le peuple de Dieu. Jusqu'au jour où ce que Dieu touche à son cœur. Ça, on le voit dans Acte 9. Même après sa conversion, il dit, je suis le premier des pécheurs. C'est intéressant de voir le temps du verbe ici. Il ne dit pas, OK, là, j'ai accepté le Seigneur, j'ai converti. J'étais le premier des pécheurs. C'est pas ça qui est écrit. Je suis le premier des pécheurs parce que Paul connaissait son propre cœur et le potentiel toujours présent de péché. Avec ça, Paul nous demande vraiment une attitude d'humilité. On va voir d'autres versets où ce que Paul nous demande son humilité. 1 Corinthiens 15, 9. « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Le moindre, je suis le plus petit. Pourquoi? Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Après tout le mal qu'il avait fait à l'Éternel, tout le mal qu'il avait fait au peuple de Dieu, il arrivait juste à cette conclusion-là. Je suis le moindre des apôtres. Éphésiens 3, 8, il va encore plus loin. Moi qui suis le moindre de tous les saints. C'est plus fort, là. Je suis le plus petit de tous les chrétiens. Il se voyait petit, puis les autres étaient plus importants que lui. C'est comme ça qu'il se voyait. Puis il mettait vraiment en pratique ce que lui-même a enseigné dans Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus, plus important, supérieur à vous-même. C'est pas vraiment le contraire qu'on fait. Hein? Moi, je suis plus spirituel que vous autres. Je viens à l'église dimanche matin aux deux réunions. Je viens à l'église le dimanche soir. Je viens le mercredi soir. Je prie trois fois par jour. Je lis ma parole. Orgueil. Ça, c'est de l'orgueil. C'est pas de l'humilité. C'est de l'orgueil. Vous savez que l'orgueil, c'est le contraire de l'humilité? Satan a péché par orgueil. Il a rentré dans le serpent. Puis le serpent a convaincu Adam et Ève que, dans Genèse 3, vous serez comme Dieu. Orgueil. On a hérité de ça. Vos enfants vont hériter de ça, de l'orgueil. Encore en mode, hein? Encore en mode, l'orgueil. A pas des modes chants, mais c'est encore en mode, malheureusement. C'est encore en mode. Fait que la question qu'on peut se poser, comment qu'on peut faire pour d'autres plus importants que nous? Bonne question. Comment qu'on peut faire? Ben, je vais vous suggérer quelque chose. Est-ce que vous savez exactement ce qu'il y a dans le cœur des autres? Non, hein? Bonne réponse. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans le cœur des autres. Est-ce que vous pouvez deviner ou penser ce qu'il pourrait avoir dans le cœur des autres? Hein? Des fois, hein? À l'occasion, on pourrait, ouais, il a dit telle affaire, peut-être que c'est ça qu'il pense, ou il a agi de telle façon, c'est peut-être parce qu'il y a ça. Je vais juste revenir pour vous donner la définition de l'orgueil. Excusez-moi. Le dictionnaire nous dit que c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres. Fait que c'est vraiment le contraire de l'humilité. Fait que oui, on peut deviner ou penser que peut-être c'est ça qu'il y a dans son cœur. Mais de savoir exactement c'est quoi qu'il y a dans le cœur de l'autre, non. Je suis avec ma femme. Puis ma femme va, pendant une discussion, va dire, ouais, ben, je sais c'est quoi tu penses. Elle me dit ça à moi. OK. Là, je lui dis, OK, c'est quoi je pense? Elle dit complètement le contraire. Là, ça me frustre. Parce que j'ai dit, tu sais pas ce que je pense. Puis il y a une autre discussion, puis à un moment donné, elle va me dire, OK, je sais de quoi tu penses. Là, je dis, OK, c'est quoi je pense? Elle arrive direct dessus. Je suis encore bien plus frustré. Mais tout ça pour dire que on n'est pas capable de voir ce qu'il y a dans les cœurs des autres. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des autres. Le seul cœur que je connais, soyez pas offensés, là, je vais vous montrer quelque chose. Le seul cœur que je connais, c'est le mien. Es-tu belle, ma chemise?
Oui.
Jessica m'a dit que t'es belle. Est-ce que tout le monde le voit? C'est un peu caricatural, mais je veux juste... Vous ne saviez pas qu'il était là, hein? Il est là. Quoi? Vous aussi, il est là. C'est le cœur. C'est pas la pompe, hein? Je pense que vous le savez, là. C'est pas la pompe, le cœur, là. Fait que vu que je suis pas capable de voir ce qu'il y a dans votre cœur, vous n'êtes pas capable de voir dans mon cœur, est-ce que je peux dire que mon cœur est le plus méchant de vous autres? Parce que je suis capable de voir dans votre cœur. Moi, je vois, par exemple, je sais qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis moi, je me dis, oui, mon cœur est méchant, puis il est probablement plus méchant que le vôtre. Puis ça m'aide à vous voir au-dessus de moi. Je sais que mon cœur est meilleur que le vôtre. Je ne peux pas dire ça. Je fais ça. J'aime mieux me dire que mon cœur est plus méchant que le vôtre. En humilité. Je ne peux pas me comparer. Je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans votre cœur. Sachant ça, ça m'aide à considérer les autres comme supérieurs à moi. Qu'est-ce que Dieu en pense à mon cœur? Jérémie 17, 9 à 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Tortueux, sournois, trompeur, méchant, mon cœur est malade. C'est ce que l'Éternel nous dit. J'ai demandé à mes 7 enfants et à mon épouse, individuellement, je lui ai posé une question, je leur ai demandé quel était mon pire péché. Individuellement. Va peut-être vous surprendre. Elle a tout un lien en commun avec la maîtrise de soi. Juste avec ça. Juste avec la maîtrise de soi. J'avais un événement par rapport à cela. Il y a des années, j'ai corrigé un de mes enfants sous l'effet de la colère. C'est pas correct. J'ai péché, c'est aggrave. Quelques heures plus tard, j'ai confessé mon péché à Dieu. J'ai demandé une réunion dans le salon de toute la famille, puis je me suis humilié devant eux. J'ai demandé pardon, parce que ce que j'avais fait, c'était inacceptable, c'était pas correct, c'était un péché. Puis mes amis, rappelons-nous que la première chose qui arrive quand on pêche, c'est qu'on offense Dieu. C'est la première chose. On offense Dieu. Puis c'est grave. C'est grave. Puis je pense qu'on l'oublie que c'est grave. Je vais me rassurer. Regardez, Paul, il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait, « Saul, ça c'est l'Éternel qui parle, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il persécutait les chrétiens, mais Dieu dit, « C'est moi que tu persécutes. » Will, il y a deux semaines, nous a parlé de David, le verset qu'on connaît, « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Le péché, Dieu est offensé lorsqu'on pêche. Puis Satan nous met dans la tête, qui est le père des mensonges, puis vous le savez, il nous met dans la tête, c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça quand tu es à l'ordinateur, puis il n'y a pas personne qui te voit, puis tu es sur les sites non recommandables. Satan vous met ça dans la tête. Quand vous regardez un film, qu'il y a des scènes que vous ne devez pas regarder, Satan dit, garde, il n'y a pas personne qui te voit, fais-le pareil. C'est grave. Personne ne te voit. Nous autres, les gars, quand on est en auto ou whatever, puis on voit une femme, puis on tourne la tête, puis qu'on convoite, bien Dieu, il dit qu'on a déjà fait l'adultère dans notre cœur. C'est grave. C'est grave. Puis c'est pas vrai que c'est pas grave. Satan veut nous mettre ça dans la tête, puis c'est faux. Dieu, il déteste le péché, il haït le péché, il a en horreur le péché. Regardez dans Proverbe, il y a 6 choses que hait l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Vous voyez-vous un peu là-dedans? Mais si vous ne voyez pas, là, regardez, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Il n'y a pas personne ici qui peut se lever et me dire qu'il n'y a jamais eu de pensée mauvaise. Je ne vous crois pas si vous me dites ça. Que vous avez des pensées mauvaises, bien, c'est une horreur pour Dieu. Puis nous aussi, on doit l'avoir en horreur. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Les péchés, là, ils sont tellement dégueulasses, dégoûtants, c'est tellement une abomination aux yeux de Dieu, c'est tellement pourri que Dieu dit, tu mérites la mort éternelle loin de ma face. C'est ça que tu mérites. Je ne veux pas que tu sois là parce que moi, je peux. Tu peux pas être là. C'est grave. Puis on ne le réalise pas assez, frères et sœurs, que quand on pêche, c'est Dieu qu'on offense. On l'oublie, ça. Moi le premier, je vous le confesse. Puis quand je m'examine et je regarde ça, là, je me trouve une petite créature minable. Et que je me trouve minable. Ce qui me vient en tête, c'est une fourmi. Désagréable, une fourmi. Ça sert à quoi, des fourmis? Moi, tous les matins, je prends mon café. Je mets un sucre dans mon café. Quand que je vais dans l'armoire puis je prends du sucre, ça m'est déjà arrivé de voir une fourmi là-dedans. C'est-tu désagréable? Ou bien je vais sur mon terrain puis je vois un trou puis il y a plein de fourmis dans le trou ou il y en a dans la maison. Ah, des fourmis dans la maison. C'est-tu désagréable un peu? J'haïs ça, moi. Je dis, ouais. Aux yeux de Dieu, je suis comme une fourmi, moi. Je me mets à la place de la fourmi, puis je me semble Dieu pourrait faire juste. Pour nous, c'est facile, hein? Si j'aurais une fourmi ici, là, ce serait bien facile. Fini. That's it. Ça, ça m'aide à comprendre Paul quand il dit « Je suis le pire des pécheurs, puis je suis le moindre des saints. » Ça m'aide à comprendre ça. Je dois m'humilier devant mon grand Dieu. Mon grand Dieu. Je pense qu'on ne le voit pas assez grand. On se voit trop grand, puis lui, on le voit trop petit. Ça se peut-tu? Que je m'humilie, puis que je confesse mon péché, puis que je me repente, puis que je dis à Seigneur, je suis vraiment désolé. Amis, mes frères et sœurs. Fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Wow! C'est-tu bon? C'est-tu rassurant de savoir ça? Et que ça me rassure. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. J'ai peut-être blessé quelqu'un ici dans la salle. Peut-être blessé quelqu'un à un moment donné. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Si ça l'arrive, je vous en supplie, venez me voir. Il faut régler ça. Il faut que vous régliez ça. Ne dites pas, ah, c'est pas si grave ça, que ça. C'est pas si grave que ça. Je vais passer par-dessus. Non. Souvenez-vous ce que Jerry Kramer a dit. Ça, c'est pas grave, là, ça ne réglera pas. Parce que, savez-vous quoi? Si je vous dis quelque chose qui vous blesse, puis que vous ne me le dites pas, que vous le gardez quelques semaines, quelques mois, quelques années, il risque que ça rumine là-dedans. Là. Ça rumine là-dedans. Là. Puis là, savez-vous quoi? Vous pouvez devenir amer. Il peut y avoir de l'amertume qui s'installe. Vrai? Vrai? Ça peut arriver, hein? C'est de l'amertume, là. C'est un péché, ça? Ça veut dire que mon péché que j'ai fait à vous, le péché que j'ai fait à vous, si vous ne vous repentez pas, si vous ne venez pas me voir, excusez, puis vous dites, tu m'as blessé, René, quand tu m'as dit ça, ou quand tu as fait telle chose, tu m'as blessé, que vous, vous le gardez en dedans, vous devenez amer, l'amertume s'installe, c'est vous qui péchez. C'est une plaie, le péché. C'est une vraie plaie. Puis, n'est pas tout de me voir après, là. Fait que lorsque je regarde Paul, l'un des plus grands hommes de Dieu qui a été sur terre. Écoutez, là, on parle de l'un des principaux personnages du Nouveau Testament. Il a écrit 13 livres. L'évangéliste par excellence, lui qui a subi toutes les souffrances inimaginables, si vous lisez dans ses lettres, c'est incroyable, les naufrages qu'il a dû subir, les fouets, la prison, puis etc., là, mettez-en là. Puis au travers de tout ça, il a toujours été fidèle et persévérant. Puis à la fin de sa vie, il a été capable de dire, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Lui, le plus petit des apôtres, pour moi, Paul, c'est un modèle d'humilité. Le meilleur modèle d'humilité, c'est qui? Christ. Jésus. On l'a lu ce matin. Philippiens 2, 5, 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. plus, il s'est humilié en lavant les pieds de ses péchés. En lavant les pieds de ses disciples, les pieds sales en passant, de ses disciples, c'est un exemple que nous aussi, on doit s'humilier les uns les autres. Quelle humilité! Quelle humilité que le Seigneur a eue pour nous! Quel amour! On a vu ce matin que Dieu est le péché. Ce n'est pas E-E-S-T, là. Haït le péché. A des cœurs vraiment tortueux. La mort éternelle. Puis que moi, versus Dieu, je suis vraiment une petite fourmi. Mais Dieu aime le pécheur. Amen. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Prouvé en envoyant son Fils unique mourir à la croix pour nous. Vous êtes ici ce matin, puis que vous n'êtes pas certain, que vous n'avez pas l'assurance que si vous mourrez à l'heure même ou en sortant de ce local, que si vous mourrez, si vous n'êtes pas sûr que vous allez au ciel pour l'éternité, mais sachez une chose, Dieu veut vous avoir avec lui pour l'éternité. C'est son désir. Il veut que vous soyez là. Alors, que vous devez faire si vous n'avez pas cette assurance? Reconnaissez que vous êtes pécheur. Reconnaissez que vous êtes pécheur. Reconnaissez que vos péchés offensent Dieu, que vos péchés sont graves, que c'est laid. Reconnaissez-le. Demandez-lui pardon. Demandez-lui pardon. Et selon les ordonnances de Dieu. Puis si vous faites cela, sincèrement, Dieu vous promet de vous pardonner. On l'a vu tantôt. Il vous promet de vous pardonner, puis il vous promet que vous allez être avec lui pour la vie éternelle, avec lui dans le royaume des cieux. Tout que ça. Aussi simple que ça. Nous qui sommes sauvés, mes frères et sœurs, soyons reconnaissants. Oui, c'est l'action de grâce. Soyons reconnaissants pour cette grâce que Dieu nous a accordée en son Fils Jésus-Christ. Malgré nos manquements, malgré nos cœurs laids, Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Il a dit ce matin, je vous aime, peuple de Dieu. Frères et sœurs, je vous aime. Meilleur des peuples, même avec vos défauts, puis vous devez m'aimer. Même avec ça. Aimer quand même. Je peux-tu le ramener? Je ne suis pas capable de le ramener. J'ai été trop vite. Yannick, es-tu capable? J'aimerais ça vous laisser sur le dernier verset. Oui. Le verset, c'est dans Jean, chapitre 13, verset 34-35. Oui. Parce que j'ai pesé. Gars, je te laisse. Allez, allez dans votre Bible. Jean, chapitre 13, verset 34-35. C'est un verset qu'on connaît, mais je vais vous le rappeler. Vous êtes là? On l'a à l'écran. Merci, Yannick. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et je l'ai souligné. Comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, si on s'aime les uns les autres, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est un beau témoignage. Ça. Quand on fait ça, là, c'est un témoignage à notre Seigneur grand Dieu. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Frère, que le Seigneur nous aide à vivre une vie en toute humilité pour sa gloire. On va prier. Seigneur Dieu, patient. Tu es un Dieu patient. Les 22 premières années de ma vie, j'ai complètement rejeté. Paul, je t'haïssais. Puis j'haïssais le peuple de Dieu. Je t'ai demandé pardon pour cela et tu m'as pardonné. Oh, quelle grâce, Seigneur! J'ai réalisé que je faisais du mal. J'ai réalisé que je t'offensais. Merci, Seigneur, de m'avoir pardonné. Et Seigneur, même après ma conversion, je continue de pécher. Je dois, chaque jour de ma vie, humilier devant toi. Je suis un pécheur et je dois te demander pardon. Seigneur, s'il y a des frères et sœurs ici, pensez. Tu sais, Seigneur, que je t'ai déjà fait cette prière. Je te demande pardon. Et que ces frères et sœurs, Seigneur, puissent venir me voir pour qu'eux-mêmes ne tombent pas dans le péché d'amertume. Mets ta parole, Seigneur. Aide-nous à être un peuple humble qui vit dans toute l'humilité. Et là, Seigneur, on veut le faire pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.